Alors autant, si l'économie réelle, on peut la déterminer, la définir, donc effectivement, moi je ne peux pas manger deux repas à la fois. Je suis bien obligé d'en prendre un, de le digérer, et puis d'en prendre, je peux pas, ça sert à rien de mettre trois chemises à la fois, d'habiter deux maisons à la fois, etc. Ça c'est ce qui concerne en quelque sorte les besoins réels, définis, que chaque être humain doit avoir. Et comme je disais tout à l'heure, ça n'est pas résolu. Il y a des êtres qui vivent dans l'indigence, et cette indigence qui n'arrête pas de grandir, et pour qui simplement se nourrir ou nourrir leurs enfants est un problème quotidien. Donc le superflu a pris le dessus, et à ce moment-là, qui détruit la planète, ce n'est pas le nécessaire et l'indispensable qui peut parfaitement être partagé. Si vous demandez aux gens est-ce que l'Afrique c'est pauvre, ils vont vous dire oui, parce que c'est tellement incrusté dans l'esprit que l'Afrique est pauvre qu'on oublie complètement qu'elle est extrêmement riche, qu'elle représente à peu près 10 fois la superficie de l'Inde avec 800 à 900 millions d'individus, donc on pourrait dire qu'elle est pratiquement sous-peuplée. Donc elle est riche, elle est sous-peuplée, 60% de la population en moins de 30 ans, et c'est là qu'il y a les foyers de famine, de disette, de malheur, et bien malgré les richesses. Ce qui veut dire que la monétarisation, si vous voulez, de relations humaines par l'accumulation aboutit évidemment à signer une partition entre un cinquième de la population humaine qui consomme les 4/5 des ressources produites sur la planète. Imaginez 5 personnes autour d'une table, il y a 5 pommes, il y en a une qui prend 4, elle laisse une aux 4 autres. La première des 4 va prendre la moitié, la deuxième le quart, et le dernier quart va être inéquitablement partagé entre les deux. Et ça vous donne quoi? Ça vous donne une immense pyramide des disparités mondiales. Vous avez au sommet de la pyramide une accumulation absolument incroyable, et puis vous avez en bas de la pyramide des êtres humains qui arrivent au monde, ils naissent au monde, mais ne peuvent pas y vivre, parce que quand ils arrivent, il n'y a ni eau potable, ni nourriture, ni soins, rien. Donc ils naissent beaucoup plus pour agoniser, et j'en ai vu, et quand vous en avez vu, vous savez, ça vous marque à vie, eh bien ils agonisent, ils ne peuvent pas vivre, c'est impossible, ils agonisent. Et donc, ainsi, vous avez cette disparité extraordinaire dans le monde. Ce qui fait que d'un côté, la technologie et le progrès qui étaient censés répartir les biens entre les humains est en défaillance. Il a produit des choses intéressantes, mais quand on calcule si on devait calculer ce qu'il faudrait comme argent pour réparer les dégâts produits par le soi-disant progrès, elle serait infiniment plus importante que les bénéfices qu'en ont tiré un cinquième de la population du monde. Parce que le progrès n'a pas profité à tout le monde. Aujourd'hui, bien sûr, il y a des pays émergents qui sont en train de prendre ce modèle. Et tout cela relève d'une histoire, si vous voulez, de ce fameux paradigme qui fait que rien n'est tout ce qui est la richesse. Elle ne peut être considérée qu'à partir du moment où elle peut être chiffrée. Si elle n'est pas chiffrée, ce n'est pas une richesse. C'est-à-dire tous les actes que nous faisons gratuitement tous les jours, eh bien, c'est de la richesse, mais ça, ce n'est pas chiffré, puisque ça ne produit pas de l'argent qui va en fait augmenter le PIB et le PNB. Alors, toute cette mythologie, depuis longtemps, on l'a mise en route, et on a mis en place aussi, suite à l'industrialisation, ce qu'on appelle le développement. C'est suite à un discours d'investiture du président Truman, je crois, qu'on a commencé à parler pour la première fois de ce qu'on appelle le sous-développement, ou le développement, le sous-développement. Ça sous-entendait quoi? Ça veut dire qu'il faut que l'humanité tout entière suive le modèle dominant. Il faut que tout le monde accède à la richesse, accède aux biens censés produits par le progrès, et cela fait une différence entre ceux qui sont développés et ceux qui sont sous-développés. Et ceux qui sont sous-développés, eh bien, on mesure aussi la prospérité des nations par le produit national brut. Ainsi, vous avez le G7, le G8, etc. Mais quand vous regardez, et ensuite les autres nations sont classées pays émergents, en développement, sous-développés, etc. Donc, une classification totale de l'humanité. Il n'y a rien de plus stupide que des gens qui disent tel pays ne vit qu'avec un dollar par jour. Ça signifie rien, ici. Ça signifie rien. Vous allez dans un village africain ou asiatique que je connais, et vous demandez aux gens d'amener toutes leurs économies. Si vous arrivez à collecter 150 euros, ça serait extraordinaire. Vous dites un village de 200 habitants possédant 150 euros ne peut pas vivre. Sauf qu'ils vivent. Et ils vivent comment? Ils vivent parce qu'ils ont les vraies richesses, ceux vers lesquels il faudra bien qu'on se tourne un jour, leur lopin de terre, s'ils ont de quoi arroser ou la pluie qui est favorable, ils ont leur travail, leurs connaissances, leur savoir-faire. Ils font eux-mêmes leur maison, elles sont ce qu'elles sont, aidées de leurs voisins. Il y a une solidarité interne qui est formidable, on prend en charge ses veuves, ses orphelins, il n'y a pas de sécurité sociale pourtant, ou de retraite de vieillesse, on prend en charge ses vieillards. De génération en génération, cette solidarité qui se perpétue fait que ces humains continuent à vivre comme ils ont vécu depuis des siècles, et l'avènement de l'argent est venu tout détruire. Parce qu'à partir de ce moment-là, on ne leur a pas dit, alors qu'ils s'occupaient de leurs oignons, si on peut dire, ils s'occupaient de leurs affaires pour survivre, on leur dit, mais il faut maintenant produire pour exporter. Alors ils se mettent à produire pour exporter, mais malheureusement, on leur impose les méthodes agronomiques modernes qui sont les moins rentables de l'humanité, puisqu'il faut à peu près 10 calories alimentaires pour faire une seule calorie, 10 calories d'énergie pour faire une seule calorie alimentaire. Il faut à peu près 3 tonnes de pétrole pour faire une tonne d'engrais. Et l'engrais et le pétrole étant indexés sur le dollar, vous avez donc un terme des échanges qui n'est pas bon. C'est-à-dire que le paysan est obligé d'acheter des engrais, investir avant même de savoir s'il va y avoir un résultat. Déjà, il commence à dépenser. Ensuite, il y a les aléas climatiques, ou la pluie, ou la sécheresse, il récolte ou il ne récolte pas. Et puis finalement, à la fin du compte, il se trouve appauvri, de plus en plus appauvri par la loi du marché. Par la loi de l'argent, finalement. Et étant de plus en plus appauvri, il pousse ses enfants à s'en aller, lui-même décide de s'en aller, et ça fait des mendiants qui sont dans les villes, comme ça, et les villes, ce qu'on appelle les villes, enfin c'est par un euphémisme, grossissent de plus en plus, et aujourd'hui, il y a un désastre dans l'organisation des pays du tiers-monde, le banditisme, la criminalité augmente, la prostitution, la drogue, etc., etc., ce sont des pourrisoirs qu'on appelle maintenant des villes. Et cette dégradation humaine, évidemment, a été provoquée par la domination absolue de l'argent et de indicateur de richesse. Alors, on a instauré donc le produit national brut, disant, mais on a ajouté tel pays, un produit national brut de tant pour tant d'habitants. Qui sous-entend, quand on l'écoute, qu'on partage équitablement. Si vous êtes invité chez quelqu'un, qu'on dit, il y a eu une tarte, cette tarte, on était 6, on a partagé entre nous, donc ça se supposait quand même que celui qui a partagé a essayé d'être équitable. Sauf si quelqu'un dit, moi je ne veux que la moitié, mais c'est sa décision propre. Alors dans le système, on dit, tel pays a un produit national brut de tant pour tant d'habitants. Et vous apercevez de quoi aux États-Unis, pays le plus riche paraît-il du monde, enfin, ça, là aussi il y a une énorme ambiguïté parce que c'est le pays le plus endetté de la planète, etc. Un cinquième du peuple américain, 1% d'Américains disposent de 40 à 50% des richesses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'équité. Et ça me rappelle une anecdote parce que il se trouve que ma mère, qui m'a pris en charge quand j'étais petit, sur la volonté de mon père, enfin j'ai raconté tout ça dans le Sahara aux Cévennes, elle était française et bourguignonne. Donc elle est née dans le pays du Bourgogne, du pays du bon vin. Mercury, si vous connaissez. Bon, c'est pas rien. Bon. Donc elle est née dans le pays du Mercury, et toute sa vie, si on calculait la quantité de vin qu'elle a absorbé toute sa vie, ça ferait des hectolitres et des hectolitres. Parce qu'elle considérait que l'eau, ça la barbouillait. Voilà, elle ne voulait pas boire de l'eau parce que l'eau, ça l'a barbu. Et même pour lui faire prendre un cachet d'aspirine, il fallait se battre pour lui dire, maman, mais il faut le prendre avec de l'eau. Mais avec du vin, c'est aussi bien. Il n'y a pas de problème. Donc, et elle est morte centenaire. Donc elle a en fait prouvé que le vin, ça conserve. Que c'est vraiment... Alors elle me regardait, moi, par contre, elle disait, mais regarde comme tu es maigre, tu es... etc. Si tu buvais du vin, tu te porterais mieux. Bon, sauf que moi, c'est le vin qui me barbouille. Encore une fois. Donc, grand dilemme. Un grand dilemme, bon. Et puis, vers la fin de ses jours, ma mère est venue vivre en Ardèche, proche de chez nous. On était d'ailleurs très contents, on pouvait au moins s'en occuper, etc. Et nous avions un rituel, c'est-à-dire qu'à l'époque, eh bien, nous faisions du fromage. Nous étions dans une ferme qu'on a achetée, 15 000 francs d'ailleurs. Et le Crédit Agricole avait même du mal à nous prêter parce qu'il disait, nous ne voulons pas vous aider à vous suicider. Parce que ben, sur cette ferme, ben, on avait eu 13 ans sans électricité, à peu près 7 à 8 ans avec seulement 30 mètres cubes d'eau. Il n'y avait pas, évidemment, pas de téléphone. Et l'accès à la ferme était très difficile par jour de pluie. Par jour de pluie, il fallait contourner, c'était très difficile. L'état du sol, rocailleux. Rocailleux, c'est-à-dire la garrigue, si vous connaissez un peu la garrigue sèche, avec des sols très peu épais. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit ici, il y a très peu de sol. Donc, avec les conséquences, pas assez d'eau stockée dans le sol, pas assez de sol pour que les plantes s'épanouissent. Et c'est à ce moment-là que j'ai appliqué, après avoir vu quelle était l'agriculture moderne, dite moderne, en tant qu'ouvrier agricole chez mon patron, qui s'appelait les Assions, où il était arboriculteur et viticulteur, et il utilisait toute l'année des produits chimiques en grande quantité, en particulier des systémiques. Et quand nous avons acheté notre ferme, ben nous avons décidé que cette ferme, j'avais découvert donc Rudolf Steiner, en particulier un Pfeiffer. Pfeiffer qui décrivait toutes les techniques de la biodynamie, la nécessité d'amener de la matière organique fermentée selon des principes particuliers, etc. Et je me suis mis, j'ai refusé totalement de rentrer dans la chimie parce que quand j'étais chez mon patron et qu'il fallait traiter des arbres, ben, il fallait mettre un masque, se prémunir contre, même le respirer, c'est systémique, tuer les gens. Et un ami médecin, le confirmer, voire provoquer des paralysies, des gens aveugles, etc. C'est parti dans la même période où il y a eu le livre de Rachel Carson, Le Printemps Silencieux. Je ne sais pas si des gens ont lu ce livre qui était une vraie bombe, eh bien, qui dénonçait justement les pesticides et dans leurs effets désastreux sur l'environnement. Pourquoi le Printemps Silencieux? Parce qu'il n'y a plus d'oiseaux et Rachel Carson, scientifique de très haut niveau, avait été particulièrement affectée par la mort des rapaces qu'elle aimait beaucoup, ces rapaces qui mangeaient des rongeurs contaminés, et puis vous voyez toute la chaîne qui se détruisait, et elle avait donc tiré ce livre. Donc on avait décidé de cultiver notre terre avec les principes biologiques, et comme le territoire s'y prêtait, territoire de garrigue sauvage, on avait donc créer un troupeau de chèvres pour faire des fromages et vendre sur le marché. Alors je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à ma mère. Donc tous les samedis, il y a le marché au Vence. On emmène les fromages à vendre au marché. Et le rituel avait été que quand j'avais fini de vendre mes fromages, eh bien on se retrouvait au restaurant avec ma mère. Et donc on s'offrait toutes les semaines un repas comme ça commun, ça nous permettait de nous voir un peu plus et d'échanger. Et alors on est au restaurant, ma mère commande sa bouteille de Bourgogne, surtout pas de Bordeaux parce que pour elle c'était de la piquette, rien ne valait le Bourgogne. Et elle commande donc sa bouteille, et comme je suis face à ma mère, ben, je culpabilise un peu. Je dis bon, depuis le temps qu'elle me tanne pour que je boive du vin, je vais au moins, ce coup-ci, trinquer avec elle, au moins, donc, consentir. Et je lui dis, maman, vraiment, un doigt, comme ça, pas plus. Deux gorgées pour trinquer. Donc elle me verse mes deux gorgées, elle est toute contente, ou moi que je prenne deux gorgées, nous trinquons, nous finissons notre repas, nous sortons et nous allons chez une amie libraire, et j'entends ma mère dire, nous avons fait quand même un bon repas, ou c'était le restaurant des Cévennes, un bon repas, oui, pas mal, et puis nous avons bu une bouteille à deux, voilà c'est vrai. Voilà, donc voilà le produit national brut, c'est ça le produit national brut. C'est-à-dire c'est encore un leurre où on explique aux gens, soi-disant, comme s'il y avait égalité, enfin vous voyez toute la sémantique qui finalement piège le citoyen et puis finalement fait de ce citoyen quelqu'un qui va faire tourner la machine en quelque sorte économique. Autre illustration, disons, de l'inanité du modèle. Je quitte l'Algérie au moment de la guerre d'Algérie, j'arrive en France, j'ai pas fait de bonnes études parce que ça ne m'intéressait pas de faire des études, d'apprendre la chimie, etc. Ça me cassait les pieds, vraiment, puisque j'étais dans un questionnement identitaire beaucoup plus qu'autre chose, ce qui m'a amené à travailler beaucoup en autodidacte et essayer de me donner les réponses que l'école ne me donnait pas. L'école me disait au contraire que mes ancêtres étaient des Gaulois. Voilà. Bon, donc j'avais cité ça. Il y avait même des camarades plus noirs que moi et qui se disaient mes ancêtres les Gaulois. Bon, alors je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'histoire, mais en tout cas on a eu. Alors je viens donc en France et puis je viens pour pratiquement en pèlerinage voir la nation mère. J'y vis une grande solitude, une grande indifférence des gens qui était assez douloureux, mais il fallait bien que je gagne ma vie, donc je me présente, j'essaie de trouver un boulot et je m'aperçois que je n'avais pas de qualification, que je pouvais peut-être faire une bonne dissertation sur Pascal ou sur Socrate, que j'aimais beaucoup, mais ça ne semblait pas intéresser mon employeur. Donc je n'ai pas de qualification, je deviens ce qu'on appelle un OS, ouvrier spécialisé. Et quand on vous dit ouvrier spécialisé, c'est pour ne pas vous vexer, parce qu'en fait, l'ouvrier spécialisé, c'est justement celui qui n'est spécialisé en rien. Bon. Et donc, toute cette sémantique. Ensuite, je connais ce monde de la frénésie du travail. Le travail exalté comme une valeur. Mais ce travail qui produit et surproduit et produit peu des déchets, donc des rebuts. C'est-à-dire qu'il n'est pas limité à satisfaire les besoins. Il va au-delà de la satisfaction des besoins pour produire le rebut du déchet et du surplus tous azimuts. Donc c'est là que je découvre les racines de la croissance économique indéfinie. Si vous voulez, on ne met aucun seuil au résultat du travail, il doit être complètement sans limite. L'individu, lui, est manipulé à être tout le temps insatisfait. Étant tout le temps insatisfait, il est harcelé par la publicité qui lui dit qu'il n'a jamais assez et qu'il faut toujours avoir plus. Avec des objets éphémères qui ont une valeur aujourd'hui, après le lendemain, il faut les changer parce que ça y est, c'est périmé, etc. Dans ce climat, en quelque sorte, de la productivité et du travail, mais qui ne génère pas de l'équité. Moi, je ne disais pas, je ne cherchais pas l'égalité, mais l'équité. Comment se fait-il que le travail commun, l'effort que nous faisons tous n'aboutisse pas à satisfaire aux besoins les plus élémentaires du plus grand nombre? Voilà. Eh bien, nous n'aboutissions pas à cela. Ça crée au contraire des disparités entre riches et pauvres, les riches s'enrichissent plus, les pauvres s'appauvrissent plus, ce que l'on voit aujourd'hui encore. Et à l'intérieur du système, eh bien, vous avez la hiérarchie. Vous avez donc le PDG, le directeur général, les cadres supérieurs, les cadres moins supérieurs, et on dégringolait comme ça, dans un système pyramidal, on dégringolait les échelons, comme on dit, jusqu'à nous, OS, qui étions les dernières strates. Et au moins, nous n'avions personne à vexer parce que nous n'avions personne en dessous de nous. Nous étions les derniers. Donc, cette hiérarchie, si vous voulez, de l'avoir, du pouvoir et de l'autorité, n'était pas compatible pour moi avec un système humain qui nécessiterait effectivement de construire avec humanisme le monde, avec humanisme. Et c'est parce que nous n'avons pas construit le monde avec humanisme qu'on a recours à l'humanitaire. L'humanitaire est le palliatif qui intervient sur les déficiences de l'humanisme. Et comme j'étais habité déjà beaucoup par cette nécessité de l'humanisme, je ne trouvais pas du tout mon compte. Et alors, donc la productivité, la surproductivité, l'exaltation du travail comme une vertu absolue, tout cela me paraissait vraiment ne pas correspondre à une construction d'une société susceptible de satisfaire aux besoins réels de l'humanité, un jour de l'humanité. C'est ce qui a fait que j'ai fait mon 68 en 57 et j'ai quitté donc le système pour aller vers la Terre. Et à l'intérieur de ce système, on n'arrêtait pas donc toute la manipulation. Vous allez voir ce que vous allez voir, le progrès va libérer l'être humain. Déjà, je voyais bien qu'on faisait métro-boulot de dos. Je pointais tous les matins, il fallait que je conçois à l'heure, et tous les jours on travaillait. Et donc, et on travaillait pour travailler. Ce qui me rappelait une anecdote qui a eu lieu chez nous quand les Français ont découvert le charbon et qu'ils ont embauché la population. Il y a certaines personnes de la population qui étaient encore dans d'autres traditions et d'autres visions du monde. Certains, quand ils avaient perçu leur salaire, ils ne revenaient qu'un mois ou deux mois après. Ensuite, on leur demandait, mais pourquoi tu n'es pas venu travailler? Et ils répondaient naïvement, eh bien, j'avais pas fini de dépenser mes sous. Parce que pour eux, travailler pour travailler, à partir du moment où on a ce qu'il faut pour vivre, eh bien, vivons. Mais le travail constant, ils ne le comprenaient pas très bien. Quant aux proclamations du progrès, c'était, vous allez voir ce que vous allez voir, la science, la technique va libérer l'être humain. Bon, quand vous analysiez l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, qu'est-ce que vous trouviez? Eh bien, vous trouvez que de la maternelle à l'université, il est enfermé. Les jeunes appellent ça le bahut. Ensuite, on tombait dans les casernes. Et quand vous demandez aux gens où est-ce que tu travailles, ben, je travaille dans une petite boîte, dans une grande boîte, etc. Et même les jeunes, quand on leur dit, mais où est-ce que tu es allé t'amuser? Ben, je suis allé m'amuser en boîte. Mais comment tu y es allé? Dans ma caisse. Et puis, il y a la boîte à vieux, la boîte où on stocke les vieux en attendant la dernière boîte. Alors, comme programme de vie, je ne peux pas dire que ça soit très exaltant. Voilà. Oui. Ça met vraiment en évidence le fait que le fait du leurre d'une logique qui est surtout animée par l'insatiabilité, le pouvoir financier, qui est animée surtout par l'accaparement et par la domination, utilise la vie humaine, aliène la vie humaine pour en faire les outils pour arriver à ses propres fins. L'être humain est aliéné. Et un être humain, il n'est pas né pour faire marcher une machine économique. On élève les enfants comme des futurs soldats de l'économie, bien plus que des êtres épanouis dans toutes leurs dimensions. Ce qui fait que l'être humain est accaparé par une machine à produire des richesses mal partagées et à participer à la liquidation, en quelque sorte, des ressources planétaires. Et il oublie, évidemment, dans son itinéraire, il n'a pas le temps et le loisir de l'épanouissement individuel. Ce qui fait qu'il reste en friche dans ces dimensions du cœur, ces dimensions de l'esprit, ces dimensions de la créativité, ces dimensions de la liberté. Tout ça est absolument occulté pour faire un être humain laborieux, productif, et qui est indexé sur les ressources, sur l'argent. Il ne peut exister que s'il a l'argent. Et l'éducation, aujourd'hui, n'a pas évolué. Et je ne serais incapable, nous avons élevé nos 5 enfants dans une certaine liberté, dans un milieu favorable qui était la nature, parce qu'ils étaient en rapport avec la nature. Ils allaient quand même à l'école normale, si on peut dire, l'école conventionnelle, mais dans la maison, ils trouvaient d'autres valeurs. D'autres valeurs qui insistaient sur le fait qu'il fallait l'épanouissement de l'être humain ne peut pas être simplement apprendre ce qui va servir à le métier, lequel produit, etc. Et qu'un être humain doit s'épanouir sur les autres dimensions, ce qui fait que nous avons toujours veillé à ce que ces autres dimensions soient développées. Ce qui fait que tous les enfants sont musiciens, créatifs, très indépendants, et ils ont épanoui en eux de l'art qui leur permet d'assumer la société telle qu'elle est.